Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 22. Le lieutenant avait depuis quelques jours changé d'allure. On s'étonnait de le voir réservé, sérieux, presque triste, alors que tout le monde à la résidence manifestait sa joie. La première journée des réjouissances, dont le programme avait été arrêté à l'avance, avait complètement répondu à l'attente générale. On ne s'était reposé que fort avant dans la nuit, et alors que déjà l'aube allait blanchir la cime des grands arbres du parc. Mais en se séparant, on s'était, ainsi que le voulait le programme, donné rendez-vous pour le lendemain. Une grande collation devait avoir lieu dans le jardin attenant au parc. Le marquis voulait que tout le personnel de l'habitation, ainsi que les employés et attachés de la résidence, fussent réunis, comme en une grande famille. Pour que tout le monde pût trouver place à cette fête, le gouverneur avait fait dresser trois grandes tables. Il devait prendre la présidence de la table du milieu, où se réuniraient les époux et les invités. Le commandant de la corvette devait présider la seconde table, où prendraient place les officiers subalternes, tant du fort que de la corvette, les sous-officiers et les employés de la résidence. Le lieutenant Douvel allait présider la troisième table, réservée au personnel de l'habitation et à quelques employés du pénitencier. Depuis le matin, tous les domestiques étaient occupés à dresser le couvert et à orner les tables de magnifiques corbeilles de fruits et de fleurs. Le jardin avait été ratissé, paré, orné de mâts à oriflamme. Les navires avaient envoyé tous les pavillons dont ils se servent pour pavoiser les mâts, si bien que sous les tentes ornées des pavillons de toutes les nations, ce jardin ressemblait à une immense salle de festin. Le marquis voulut s'assurer par lui-même que ses ordres seraient ponctuellement exécutés et que rien ne manquerait à la décoration improvisée. Lorsqu'il se fut rendu bien compte que tout dans le service des tables marcherait à souhait, il fit donner le signal pour que le cortège, qui s'était formé dans une des grandes allées du parc, se mit en marche. En tête marchait la marquise, donnant le bras à M. de Saulny père, puis le marquis, servant de cavalier à la femme du commandant du fort, et ainsi de suite, depuis les invités de marque jusqu'aux plus infimes serviteurs. Le défilé s'opéra devant les nouveaux époux assis sous un dais. Après avoir salué le couple, les cavaliers accompagnaient les dames aux places désignées. La marche se fit aux accords d'un brillant orchestre. Après le défilé, chacun se trouva à la place qui lui avait été assignée, à l'une des trois tables. Et le festin commença par un compliment que l'une des demoiselles d'honneur adressa à la marquise et au gouverneur. Le marquis répondit, pour remercier tous ses invités, des marques de sympathie qu'on prodiguait à sa famille. Après les discours et les réponses, il se fit un silence, interrompu seulement par le cliquetis des couverts et le choc des verres. Puis les toasts commencèrent. On but d'abord, comme il convenait de le faire dans la résidence du gouverneur, à la santé de Sa Majesté Louis XVI, roi de France. Ce fut ensuite le tour des époux, des parents. Après chaque service, des toasts nouveaux étaient portés. Il avait été convenu que le lieutenant Douvel prendrait la parole. Profitant de ce qu'on allait servir le dessert, il se leva, demandant au gouverneur la permission de parler au nom du personnel de la résidence. Il adressa d'abord au nom de tous ceux dont il présidait la table les plus sincères félicitations aux époux. L'assistance tout entière écoutait avec la plus grande attention. Le nom de Charles Douvel était répété de bouche en bouche. Le récit de la catastrophe du brick le Glorieux avait été très répandu en Louisiane. Les dames surtout voulaient voir l'officier courageux qui avait si vaillamment lutté contre l'incendie qui dévorait son navire. Debout, en face de la table présidée par le lieutenant, elle témoignait par des sourires à l'adresse de l'officier toute la sympathie qu'il inspirait. Elles avaient déjà donné le signal des applaudissements lorsque tout à coup, on vit une pâleur livide se répandre sur les traits de l'orateur. Charles Douvel avait subitement interrompu son discours, comme s'il eût perdu l'usage de la parole. Sur son visage se lisait une expression de terreur qu'il s'efforçait vainement de dissimuler. Ses yeux grands ouverts, effarés, roulaient dans leur orbite, témoignant d'une insurmontable épouvante. Le gouverneur et la marquise, qui se trouvaient en face de l'officier, avaient été les premiers frappés du changement qui se produisait en lui. Ils voulurent s'approcher de la table, et déjà le gouverneur avait prononcé ces mots. « Qu'avez-vous donc, Douvel ?» Mais sans articuler une parole, L'officier, de la main, fit signe au marquis de ne pas approcher. Puis ses yeux fixes commandaient à l'assistance de se tenir immobile. Cette pantomime, bien que n'ayant duré qu'une seconde, avait jeté une grande inquiétude dans l'esprit de tous. On se figurait M. Douvel atteint d'aliénation mentale, d'une façon foudroyante. Déjà le gouverneur voulait aviser, lorsque l'officier se décida enfin à parler. D'une voix qu'il parvint à rendre entièrement calme, il prononça lentement les paroles suivantes. « Pour votre salut, monsieur le gouverneur, n'avancez pas vers moi. Je ne voudrais pas jeter l'épouvante parmi vos invités, mais il ne m'est plus permis de taire ce qui arrive. J'ai, en ce moment, enroulé autour de ma jambe un de ces serpents dont le venin ne pardonne pas, un cobra capello. » Un frémissement d'horreur à ces mots parcourut l'assistance et déjà bon nombre d'invités cherchent à fuir. Marianne, qui tenait elle aussi sa place à la table du personnel, avait été la première à s'apercevoir du voile de pâleur qui s'était étendu sur les traits de l'officier. Elle n'avait plus détaché ses regards de ce visage livide. Et lorsqu'elle avait vu le marquis approcher, elle s'était levée à son tour, prête à s'élancer pour porter secours à celui qu'elle aimait. Mais en entendant la déclaration que venait de faire le lieutenant, elle comprend que c'est la mort sans rémission pour le malheureux qu'elle voit encore plein de vie, et qui dans quelques minutes peut-être ne sera plus qu'un cadavre. Elle se souvenait des détails si dramatiques de la mort de Scipion. Elle se rappelait tout ce que M. Gaston de Saulny avait raconté du cobra capello. Épouvantée comme tout le monde, mais plus que tous, atteinte au cœur par la certitude que le lieutenant va succomber, là, sous ses yeux, et que son corps s'agitera bientôt dans les plus effroyables convulsions, folle de désespoir, elle demeura un instant fascinée par le regard que lui adressait l'officier. Il y avait dans ce regard comme un suprême adieu à la femme aimée. Dans le trouble où se trouvait cette assistance, subitement frappée de terreur au milieu des réjouissances, un silence lugubre avait fait place aux acclamations. On comprenait que le moindre bruit pouvait être fatal à la victime. À voir tout ce monde en toilette de bal, ces dames couvertes de dentelles, aux chevelures ornées de fleurs et de bijoux, tous ces cavaliers en costume de gala, demeurés instantanément immobiles avec des rigidités de statue, on se fût cru transporté dans une scène fantastique de féerie. Pas un geste, pas un mot. L'épouvante se lit sur tous les visages. Les yeux seuls indiquent à quel degré de terreur on est arrivé et quelle immense pitié on éprouve pour le malheureux que le hasard a fait choisir par le serpent noir pour en faire sa victime. Malgré les exhortations du patient, quelques hommes déterminés s'étaient armés de leur épée, prêts à attaquer le terrible reptile. Il avait fallu pour arrêter ce mouvement généreux que l'officier fit comprendre à ses hommes que leur acte de dévouement s'accomplirait en pure perte et que leur intervention ne pourrait que précipiter le lugubre dénouement. Enfin, lorsqu'il eut obtenu que l'on n'essaya pas de lui porter secours, il se fit un changement sur son visage. Ses traits s'apaisèrent, comme si, sous l'influence de la résignation, le malheureux eût retrouvé le calme des grandes âmes devant un péril imminent. Désormais, il était seul en danger de mort, et à ce moment suprême, l'homme courageux reparut en lui. Il se retrouva le marin prêt à affronter tous les périls, toutes les catastrophes, l'officier qui sait, pendant le combat, demeurer stoïque à son banc de commandement, tandis qu'autour de lui les boulets et les balles sifflent en passant et que la mitraille crépite, semant partout la mort. Il savait qu'il suffisait d'un simple caprice du reptile enroulé autour de sa jambe pour qu'il tombât foudroyé. Et cependant, il ne broncha pas. Pas un de ses muscles ne témoignait que cet homme énergique fût en ce moment accessible à l'angoisse. Condamné, il attendait le trépas, stoïquement, étonné que la mort fût si lente à venir. Il était demeuré à la même place, n'osant bouger de peur d'exciter son redoutable ennemi et provoquer une attaque. Il n'espérait pourtant pas le salut. Mais malgré sa résignation, l'instinct de la conservation l'emportait. Du moment que la première seconde n'avait pas été mortelle, il attendait. Qui sait, un hasard, la providence peut-être? Et pendant ce court laps de temps, le serpent ondulait, montait avec lenteur tout le long de la jambe. Puis il s'arrêtait de nouveau, et sa tête aplatie s'appuyait comme s'il eût été pris d'engourdissement. C'était pour le lieutenant un moment de répit qui lui permettait de retrouver ses esprits. Alors, dans un rapide examen du passé, sa mémoire évoquait les souvenirs d'autrefois. Il se prenait à faire, mentalement d'abord, son examen de conscience, et se sentant irrémissiblement condamné, la pensée lui vint de profiter de ce court moment de répit pour réparer une faute de sa jeunesse, la seule peut-être qu'il eût à se reprocher. Oubliant que tout ce monde d'étrangers avait les yeux sur lui et que l'espèce de confession qu'il allait faire serait entendue par tous, il n'hésita pas à prendre le marquis pour confident et pour exécuteur de ses dernières volontés. D'une voix pénétrée et comme s'il se fût trouvé devant le prêtre, il prononça ces mots. « Monsieur le marquis, je vais mourir. Un miracle pourrait seul me sauver, et je n'ai pas le droit de compter sur l'intervention providentielle. Je suis prêt à subir le sort qui m'est réservé, prêt à me présenter devant le suprême tribunal de Dieu. Mais avant que j'aille porter à ses pieds le repentir qui fait tressaillir mon âme, je désire réparer ici-bas le mal que j'ai fait et racheter, si je le puis, une faute que j'ai commise. » Et sans transition, au milieu du plus profond silence, il continua. « J'ai aimé, j'ai séduit une jeune fille. Cette fille est devenue mère. Elle se nommait Madeleine Bachelin. Aujourd'hui, elle a cessé de vivre, et l'enfant qu'elle a mis au monde, mon enfant, est à Paris. Je me proposais à mon retour en France de le chercher, de le retrouver, de lui donner un protecteur, un père. C'était mon vœu le plus cher de me faire pardonner, à force d'affection, par cet enfant, le mal que j'avais fait à sa mère. Hélas, il ne pourra plus en être ainsi. Et c'est vous, monsieur le marquis, que je supplie de lui faire tenir un jour tout ce que je possède, tout ce que je puis encore espérer de fortune. Vous trouverez, monsieur le marquis, dans le portefeuille que je porte sur moi, tout ce qui concerne mon identité, toute ma correspondance avec le seul parent qui me reste, tout ce qui pourra enfin servir à faire retrouver mon enfant. » D'un geste, le gouverneur avait fait signe qu'il acceptait la mission dont le chargeait celui qui allait mourir. La marquise pleurait silencieusement, couvrant son visage de ses deux mains. Yvonne s'était affaissée dans les bras de son mari. Dans les groupes formés par le personnel, 20 bras s'étaient tendus à la fois, comme si toutes ces personnes, n'écoutant que leur courage, eussent résolu de s'élancer à la fois, d'enlever le lieutenant et d'arracher de vive force le serpent enroulé. Tous se disaient qu'ils ne pouvaient laisser ainsi mourir sous leurs yeux cet officier qui montrait un courage et une résignation héroïques. Il s'opérait une violente réaction dans cette assistance qui ne pouvait se résigner à assister, inerte et terrifiée, à cet horrible spectacle. Tout le premier, le gouverneur, subissait cette impression. Le front plissé sous l'influence de l'émotion qui le tenaillait au cœur, les yeux pleins de feu, il dit, en parlant d'une voix lente et basse, ainsi que l'on parle dans la chambre d'un mourant. « Ce que vous me demandez, je le ferai. Mais il n'est pas possible que nous vous laissions mourir ainsi. » « Non, non !» avait répondu sur le même ton assourdi la plupart des assistants. Mais au moment où des incidents nouveaux allaient inévitablement se produire, Charles Douvel leva tout à coup les bras au ciel. Son visage s'éclaira d'une lueur inattendue. Ses traits se détendirent, et un espoir inexpliqué brilla dans ses yeux. Puis, haletant d'émotion, il prononça ces mots. « Un miracle semble s'accomplir. »« Un miracle ? » répondit-on. « Oui !» Je sens que le reptile se déroule. Il descend. Il glisse lentement, bien lentement. Le voilà sur mes pieds. Il s'en éloigne. Il est parti, parti. La surprise et la joie étaient générales. À ce moment, un incident nouveau se produisit non moins terrible, non moins émouvant que celui qui venait d'avoir lieu. Tous les regards s'étaient dirigés vers un autre point du jardin. Instinctivement, Charles Douvel se retourna. Et un cri de reconnaissance et d'admiration vint expirer sur ses lèvres. Marianne était là, derrière lui, à quelques pas, tenant dans les mains une grande jatte de lait. L'exilé avait profité de la terreur générale pour se retirer lentement d'abord, puis lorsqu'elle s'était trouvée hors du parc, elle avait couru vers l'habitation. Et elle était revenue, se glissant entre les groupes. Elle était là, immobile comme une statue, les yeux fixés sur le sol. Elle paraissait attendre quelque chose. À la vue de cette femme qui seule avait eu une inspiration, au milieu de l'affolement général, tous demeurèrent haletants. Qu'allait-il se passer? L'exclamation de l'officier avait été comme un cri de délivrance. Le sang avait circulé plus librement dans les veines. L'espoir était entré dans les cœurs. Mais une anxiété nouvelle s'est emparée de tous les assistants. Ainsi que nous venons de le dire, Marianne est là, la jatte dans les mains, les yeux fixés sur le sol. Elle attend. Malgré sa volonté ferme de ne pas broncher, un imperceptible tremblement agite ses mains. La scène a pris tout d'un coup un caractère de grandeur inouïe dans sa simplicité. Malgré l'horreur instinctive qu'elle éprouve à la vue du reptile qui se dirige vers elle, la jeune femme est demeurée stoïquement à la même place. Son corps ne broncha pas. Le reptile, qui apparut sur le sol, rampe maintenant comme attiré, et sa langue fourchue sort et pourlèche avec précipitation. Marianne attend toujours. Soudain, le cou du serpent s'allonge. Le corps avance. Les écailles visqueuses ont un léger craquement. Puis il se replie sur lui-même, et d'un bond prodigieux, il décrit une courbe dans l'espace demeurée vide entre l'officier et la détenue. Marianne a étouffé un cri de surprise et de terreur. Avec une force de volonté incroyable, elle demeure rivée au sol pour ne pas fuir, éperdue. Le cobra Capello se dirige vers elle. En quelques ondulations, il va l'atteindre. L'assistance est à bout de force d'émotion. En dépit des recommandations du lieutenant, une déchirante exclamation s'élève, partant de toutes les poitrines à la fois. C'est que le serpent s'est élancé sur Marianne. Il a déjà atteint la ceinture et se dresse de nouveau. Sa tête s'allonge le long du cou qui l'entoure de son corps comme d'un collier. Et avec une effroyable coquetterie, il semble se délecter en contorsions amoureuses. Puis il se glisse le long du bras. Il arrive enfin jusqu'à la jatte. Le vase, tenu à deux mains tremblantes, deux mains crispées par le contact glacé du reptile, le vase a subi une oscillation. La jatte vacille dans les mains de Marianne comme si elle allait tomber avec fracas. Si l'accident se produit, si le lait convoité se répand sur le sol, le serpent, terrible dans sa colère, se redressera furibond. Alors, s'en serait fait de l'héroïque femme. Marianne a compris. Sous la pression du corps visqueux, elle trouva la force de raidir ses bras. Ses doigts serrés en étau maintiennent le vase. Et le reptile plonge sa tête et aspire le lait. Alors, Marianne se baisse peu à peu, profitant de ce que le reptile a plongé sa tête et aspire gloutonnement le liquide crémeux. Elle a pu se mettre sur les genoux. Qu'attend-elle? Que va-t-elle faire? Soudain, lorsque le serpent a complètement disparu dans la jatte, Marianne, d'un rapide mouvement des bras, retourne le vase sous lequel le cobra Capello demeure prisonnier. D'un bond, Charles Douvel s'est avancé. Il maintient le vase renversé. Alors, de tous les poils, on court à Marianne. On l'enlace, on l'étreint. Tous les bras veulent l'atteindre. On l'entoure, on l'enlève. Le gouverneur s'est avancé l'un des premiers. Il écarta tout le monde, et saisissant les deux mains de la détenue, il les presse dans les siennes. La marquise, succombant à l'émotion, ne trouve pas de mots pour peindre ce qu'elle éprouve, et de ses lèvres frémissantes, pâle encore de l'impression qu'elle a ressentie, s'exhalent ces mots. « Oh, mon enfant, quel courage! Quelle sublime abnégation !» Les domestiques se sont précipités pour tuer le serpent retenu prisonnier sur sa jatte. Charles Douvel le leur abandonne, et suffoquant d'émotion, ivre d'amour, il a pris Marianne dans ses bras. Il la tient, étroitement appuyée contre sa poitrine. Il laisse échapper ses mots dans un élan irrésistible du cœur. « Oh merci, merci, je vous dois la vie. Je veux désormais vous consacrer la mienne. » Yvonne arrivait à ce moment, appuyée au bras de son mari. Allant au-devant de la détenue, elle l'attira à elle et l'embrassa sur les deux joues. C'était la réhabilitation accordée à celle qui était arrivée dans la colonie comme une coupable. À partir de ce moment, le châtiment cessait pour elle, l'expiation avait assez duré. L'heure sonnait pour cette malheureuse de se croire pardonnée. Marianne, succombant à la réaction qui se produisait violente, après le puissant effort de volonté qu'elle venait de s'imposer, il fallut l'emporter. Le marquis et Charles Douvel voulurent l'accompagner. L'officier s'en retournait avec le gouverneur. Absorbé tout entier par la pensée de Marianne, dans un rapide examen de ce qu'il connaissait de la vie de la malheureuse femme, il récapitula les actes de charité et de dévouement accomplis par elle. Il la retrouvait d'abord se sacrifiant pour sauver Henriette Gérard. Puis, pendant l'incendie du Glorieux, il la revoyait sublime d'énergie, aidant puissamment au sauvetage des passagers. Il se disait que celle qui venait d'exposer sa vie pour lui avait acquis des droits. Non pas à une reconnaissance banale, mais à un dévouement de chaque jour, de tous les instants. Celle que Madame Gaston de Saulnier avait réhabilitée en l'embrassant publiquement reprenait à partir de cet instant une place dans la société. Au surplus, un incident allait se produire qui devait faire tomber, s'il en eût conservé encore, les derniers scrupules de l'officier de marine. Lorsqu'au jour il sortit de sa chambre pour aller frapper à la porte de sa voisine, Il portait haut la tête, comme un homme d'honneur qui va accomplir son devoir. En le voyant, Marianne se sentit tressaillir. Elle se rappelait ces mots prononcés la veille. « Cette vie que je vous dois, je veux vous la consacrer tout entière. » Mais en ce moment, où elle allait être en butte à de nouvelles et de plus pressantes manifestations de sympathie, celle qui avait déjà avoué la vérité sur son identité se dit qu'elle avait omis une partie de la confession qui s'était imposée à elle lorsqu'il s'était agi de combattre les projets d'union que formait le lieutenant. En faisant à Charles Douvel la confession demandée sur la nature de la faute qu'il avait faite interner à la Salpêtrière, elle n'avait pas parlé du vol commis par elle au détriment de l'enfant de l'atelier. Il lui restait à faire ce dernier aveu. On sait que pendant le terrible épisode du Cobra Capello, à l'instant où, se croyant prêt de mourir, Charles Douvel avait confessé sa faute envers Madeleine Bachelin et son enfant, Marianne s'était éloignée pour aller quérir une jatte de lait. Elle n'avait donc pas assisté à cette confession. Elle ignorait que le hasard mettait en ce moment, en présence, celle qui allait s'accuser d'avoir dépouillé l'enfant et l'homme qui s'était avoué coupable de l'avoir abandonné. Et comme elle commençait à formuler son aveu, l'officier lui imposa silence d'un geste de la main. « J'ai oublié, dit-il, ce que vous avez été, ce que vous avez fait, pour ne me souvenir que de votre dévouement, que du sacrifice que vous faisiez de votre existence pour sauver la mienne. « Ah, vous avez pardonné. Mais ma conscience n'est pas satisfaite. Elle me reproche de ne pas vous avoir tout dit et m'impose une dernière confession. » Et sans se laisser interrompre de nouveau, Marianne continua. « J'ai volé. Oui, volé. C'était l'argent d'un pauvre petit enfant. L'argent économisé par des ouvrières pour venir en aide à l'orphelin qu'elles avaient adopté. C'était un crime odieux. J'ai volé l'argent de l'enfant d'une pauvre femme qui avait été mon amie, à qui j'avais promis, à son lit de mort, que je prendrais soin du petit être qu'elle laissait seul au monde. » Et tombant à genoux, les mains croisées, levées vers le ciel, la repentie s'écria avec un accent de désespoir. « Pardonne-moi, Madeleine Bachelin, pardonne-moi. » Mais aussitôt, Charles Douvel l'avait saisie dans ses bras et la relevait. Il la tint embrassée. « Madeleine Bachelin vous pardonne, » fit-il d'une voix tremblante. « Puisse-t-elle me pardonner aussi ?» Marianne s'était arrachée de l'étreinte, les yeux fixés sur l'officier. Elle semblait être devenue folle. « Que dites-vous ? » s'écria-t-elle enfin, parvenant à retrouver ses esprits. Charles Douvel répondit « Je suis le père de l'enfant de Madeleine. »«
Vous ? » ?»«
Oui. Et désormais, nous serons deux à nous occuper de celui que je veux retrouver, que je veux aimer, que je veux prendre auprès de moi, pour ne plus m'en séparer jamais. » Et cet homme qui avait bravé les tempêtes, le commandant qui était demeuré calme et résolu devant la soute aux poudres du Glorieux que l'incendie allait atteindre, cet homme pleura au souvenir de celle qu'il avait aimée et rendue mère. Cette fois, l'émotion avait été plus forte que sa volonté. Le spectacle de cette douleur remuait Marianne jusqu'au fond de l'âme. Elle prit la main de l'officier et pour la première fois, elle laissa son cœur battre auprès du sien en une suprême et irrésistible manifestation d'amour. Avant de se séparer, Charles Douvel et Marianne étaient convenus de se revoir. Désormais, le souvenir de Madeleine Bachelin était le lien qui allait les unir, en dépit du passé de la détenue. La courageuse intervention de la jeune femme, au moment où le lieutenant courait un danger de mort, fut l'épreuve décisive qui devait faire tomber les scrupules de Charles Douvel. Madeleine morte, à qui pouvait-il désormais confier le soin d'élever son enfant, l'orphelin de l'atelier ? Si ce n'est à celle qui s'était vouée à une existence de sacrifice et de dévouement en expiation de la faute qu'elle avait commise.